Dime que son los secretos de tu alma. Dime cuál es el camino de tu divino amor.
Les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvard. Réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalquier, avec à la prise de son Cédric Châtelus. Aujourd'hui, nous recevons Idriss Devos pour parler de la voix de l'amour soufi. Idriss Devos, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour à tous. Idriss Devos, vous êtes diplômé en langue et civilisation arabe, traducteur, spécialiste des grands textes de la tradition soufie, que vous connaissez et que vous fréquentez depuis de très longues années. Et vous êtes né en fait dans l'univers de la mystique musulmane. Vous allez nous expliquer peut-être comment et en quelles circonstances. Et c'est donc en cohérence avec votre parcours personnel, votre cheminement, que vous concentrez vos activités sur le thème du soufisme en général. Et que vous, c'est aussi pour cette raison que vous avez traduit de nombreux textes importants de l'histoire du soufisme, en particulier les traités de Abou Hamed al-Razali, dont on parlera peut-être au cours de cette émission, et qui a été un des très grands maîtres du soufisme. Aujourd'hui, nous vous recevons plus particulièrement pour une étude, ou plutôt, je dirais, une méditation, que vous nous proposez sur le thème de l'amour dans le soufisme. Et cet ouvrage est intitulé « L'amour universel, un cheminement soufi ». Et en fait, c'est un thème qui évidemment intéresse en soi les racines du ciel, n'est-ce pas Frédéric ? Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans le contexte d'extrême violence qui embrase le monde musulman, il est peut-être salutaire d'essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, de comprendre que l'islam aussi a eu son ou ses messages d'amour, et que peut-être, et c'est ça que vous allez nous expliquer, cet amour est au fondement même de cette religion musulmane qui apparaît aujourd'hui comme une religion de violence dans les médias.
Tout à fait. Et je dirais même que vous disiez qu'elle a eu cette vision d'amour, et elle continue à l'avoir, même si évidemment elle est peu visible. Mais je pense que voilà, par notre contribution, on essaye aussi de maintenir la flamme et de faire sortir aussi cette vision qui demeure présente, mais qui malheureusement est très 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 étouffée par d'autres choses, quoi.
Alors vous-même, j'aimerais qu'on parle un peu de votre parcours personnel, parce que je ne pense pas que vous ayez eu des parents musulmans. J'imagine que vous êtes un converti.
Alors, pas tout à fait. En fait, je suis même troisième génération de musulmans par mon grand-père maternel. Et donc, pour vous dire un peu la genèse de cette histoire, il y avait un maître en France qui s'appelait Mustapha Valsan, qui était un maître soufi et qui avait de nombreux élèves, parmi lesquels mon grand-père, Maurice Glotton, qui est aussi connu dans le milieu, qui est traducteur d'Ibn Arabi, de Razi et d'autres auteurs. Et donc mon grand-père maternel et mon père étaient tous deux déconvertis à l'islam, tous les deux par un cheminement aussi spirituel et intellectuel. Et donc, par la rencontre de ce maître, est née aussi la rencontre du coup de mon père et de ma mère. Et voilà donc le secret de mon origine. De ce personnage, ce qui est important, pourquoi je le cite, parce qu'il a aussi une grande influence sur l'islam de France, l'islam soufi de France. Parce que, donc, je citais mon grand-père, mais parmi les élèves de ce personnage comptaient aussi des gens qui ont aussi beaucoup contribué, comme Sotchkevitch, Gilis,
un des grands noms. Qui a été directeur d'édition du Seuil pendant longtemps, effectivement.
Tout à fait. Voilà, donc des personnages comme ça qui ont contribué après.
Ça, c'était après la guerre
Non, parce que...
Dans quelles années ça a été l'influence de ce maître, Sophie?
C'était... je pense qu'il est mort, j'étais jeune en fait, donc je vais sur mes 40 ans. Moi je ne l'ai pas connu, Voilà, je n'ai pas souvenir. Je ne saurais pas vous dire.
Non, mais son rayonnement, ça a été les années 50-60.
Voilà, c'est ça. C'était que mon père était jeune. Il devait être dans la trentaine, je ne sais pas. Donc ce personnage a eu une influence importante et a fait aussi que je suis né, si vous voulez, dans un milieu où le soufisme était omniprésent, était la référence, et notamment Ibn Arabi, mais aussi des personnages comme René Guénon, que vous devez connaître évidemment, et qui donc était aussi très très présent dans la pensée de ces gens-là, et une des références, voilà. Et donc, le premier maître de mon père, son premier maître, était donc ce Shir, qui était donc de la Tariqa Alawiya, la Tariqa, c'est la voie soufie. Et par la suite, après la mort de ce maître, il s'est tourné vers un autre maître qui est beaucoup plus connu, qui est Shir Nazim, de Chypre, qui est mort cette année, que Dieu ait son âme. Et qui, lui, était de la Tariqa Naqshbandiya, la voie Naqshbandiya. Voilà. Et donc, on a un peu, si vous voulez, l'héritage à la fois d'Orient et d'Occident dans le soufisme. Et pour ma part, donc, j'ai été baigné un peu dans ce milieu-là. Et après le bac, je ne savais pas quoi faire de mon existence. Et je me suis dit, tiens, je vais faire un peu d'arabe, comme d'autres font de la philo. Et puis, en fait, je suis tombé amoureux de la poésie arabe. À l'époque, j'écrivais aussi de la poésie déjà. Donc, je suis tombé amoureux de cette poésie. Je me suis amusé à traduire mes premiers vers, alors que je comprenais que la moitié de... Enfin, voilà. Donc, et puis, par ce parcours-là, donc... Comme je ne sais toujours pas quoi faire de mon existence, vous voyez, je suis encore là à traduire des livres. Et donc, j'ai continué. Et voilà, donc après, professionnellement, je suis passé par des voies de traverse nombreuses et variées. Mais j'ai réussi à trouver des manières de consacrer mon temps, la majorité de mon temps, à ça. À la traduction, mais aussi à l'écriture.
Oui, il faut dire que vous avez vraiment de qui tenir. Je ne savais pas que vous étiez le petit-fils de Maurice Glothon. Je voudrais quand même préciser pour nos auditeurs que Maurice Glothon est quand même le traducteur majeur d'Ibn Arabi, et en particulier le traducteur du Traité de l'amour d'Ibn Arabi.
Tout à fait. Mais il a l'interprète des désirs.
Absolument, l'interprète des désirs. Donc c'est vraiment le spécialiste par excellence, et nous avons tous, dans nos études orientalistes, lu et médité les traductions de Maurice Glothon. Donc je voudrais pas qu'on passe cette émission sans lui rendre un hommage appuyé, parce qu'il a fait un travail extraordinaire.
Alors, l'amour, c'est évidemment avant tout une expérience. Donc on comprend bien que la dimension intellectuelle du soufisme vous a intéressé, mais j'imagine que vous avez aussi une vie spirituelle, des pratiques. Comment vous incarnez au quotidien votre foi et cette voie soufie?
Alors le soufisme est d'abord une pratique personnelle, bien sûr. Elle se traduit aussi par le compagnonnage, par le côtoiement de gens, de la voix, etc. Donc toute ma jeunesse, si vous voulez, j'étais baigné dans ce milieu-là. C'était le compagnonnage d'une certaine manière. Maintenant, ma voix personnelle, elle passe par un questionnement, par le fait que je sois conduit à écrire des livres, etc. Si vous voulez, c'est parce que je suis habité de ce questionnement. Je suis, c'est l'essentiel de mon existence. Et donc, si vous voulez, pour moi, le temps qui passe est une occasion de réflexion, de méditation. Et ma pratique du soufisme est avant tout la pratique de l'islam, dans les pratiques quotidiennes, mais aussi
donc cinq prières.
Les cinq prières, bien sûr. Voilà. Mais avec, si vous voulez, toujours ce désir d'aller plus loin, plus profond dans les choses. Et je pense qu'il n'y a pas une pratique... Alors évidemment, il y a le zikr. Vous savez, le zikr, c'est les invocations de Dieu, c'est les chants, etc. Toutes les choses rituelles qui se font comme ça en communauté. Mais le zikr doit se prolonger en fait à l'intérieur de soi. Et donc c'est l'essentiel du soufisme, si vous voulez, finalement, c'est comment garder le souvenir à l'intérieur de soi. Et donc ça ne s'inscrit pas dans un temps et dans un lieu précis, ça se travaille au quotidien, en permanence, en tout lieu.
Est-ce que ça ne travaille pas beaucoup, parce qu'on parle de l'amour dans la relation avec les autres,
tout à fait,
au quotidien,
fait.
Et est-ce que vous êtes attentif à ça, essayer de grandir dans l'amour finalement, puisqu'on parle de ça.
Oui, bien sûr, justement.
C'est le sens de toute une vie.
C'est ça, tout à fait. C'est le sens de ce cheminement. C'est pour ça que j'ai appelé le livre L'amour universel, un cheminement soufi. J'aurais pu l'appeler L'amour universel tout court, mais cheminement parce que justement, je vois l'amour comme un horizon. Vers lequel on tend, je ne voulais pas poser ça comme un acquis, si vous voulez, mais comme justement une perspective. C'est pourquoi ma pratique aussi passe par la réflexion sur l'amour, mais aussi, justement, je parle beaucoup dans le livre aussi de ce qui est son antithèse. Hein. Qu'est-ce qui fait la haine, est-ce que les haines sont légitimes, est-ce que, etc. Toutes ces questions qui se posent, et qui nécessite au quotidien une vraie pratique, c'est-à-dire que se remettre en question à chaque instant. Pourquoi est-ce qu'à cet instant je n'ai pas su créer la relation? Pourquoi est-ce que je n'ai pas su aimer? Pourquoi je n'ai pas su être, si vous voulez, au centre? Garder le centre, c'est aussi ça le sens du zik, si vous voulez, parce que finalement, le zik, c'est là. C'est le souvenir.
Donc, il y a un travail d'observation de soi, de sa vie intérieure, de ses émotions, de ses passions, un peu comme ça existe dans toutes les grandes traditions spirituelles et de sagesse.
Tout à fait. Tout à fait.
Et vous avez des exercices concrets qui vous aident, comme la méditation chez les bouddhistes ou des pratiques d'introspection qui existent dans diverses traditions?
Bien sûr. Alors, formelles. Pour moi, c'est des pratiques au quotidien. C'est-à-dire que quand je marche dans la rue, quand je suis en famille, enfin, si vous voulez, l'idée, c'est de garder la flamme. C'est de garder la flamme. Or, la flamme est assaillie de toutes parts. Et quand on comprend certains mécanismes qui éteignent la flamme, on finit par comprendre comment ne plus l'éteindre. Et pour moi, c'est ça le travail, si vous voulez. C'est de comprendre. Et donc, c'est un travail sur l'ego, finalement. C'est ça, l'essence du soufisme. C'est un travail sur l'ego. Comment comprendre ce qui, en nous, altère le souvenir. Et donc, un travail, évidemment, dans le peuple, dans la vie, puisque si je suis assis en méditation, il est beaucoup plus facile. Et encore que, vous le savez, on le sait tous, on n'est pas forcément en paix, même en méditation. Mais je dirais que dans le monde, dans l'agression du monde, dans la dynamique perpétuelle, il est encore plus difficile de garder son centre et de garder ce souvenir présent. Donc, c'est un double travail qui est à la fois à l'intérieur de soi, mais aussi dans la relation aux autres, dans la dynamique. Et d'ailleurs, un des thèmes très forts de l'amour universel, c'est de montrer comment on ne peut pas comprendre l'amour autrement que dans une dynamique. Et si vous voulez, il y a d'ailleurs tout un questionnement philosophique, très classique d'ailleurs, sur l'objet de l'amour. Est-ce que l'objet de l'amour est nécessairement absent, hein, des thèmes qu'on trouve déjà chez Platon, mais aussi chez Ibn Arabi. Et puis une autre vision qui va dire que l'amour est une puissance de jouir, une jouissance en puissance. Et si vous voulez, ces deux visions semblent des impasses. Alors il faudrait rentrer dans l'ouvrage pour comprendre un peu tout ça. Mais si vous voulez, je montre grâce à Rumi, justement, cher Leili, parce que c'est un de ceux qui a le mieux éclairé ce sujet-là, c'est que ce paradoxe-là, ce double paradoxe, ne se résout que dans la dynamique, en ayant une vision dynamique de l'amour. Et ça, vraiment, c'est un héritage exceptionnel qu'on a de Rumi, mais aussi d'Ibn Arabi qui parle de ça.
Et, oui, très longuement, dans le traité.
Ça mériterait que vous expliquiez un peu mieux ça, parce que là, vous dites très vite en passant.
Je pense
qu'on a le temps que vous expliquiez un petit peu ce que vous appelez ces deux impasses et comment on peut les résoudre dans cette dynamique.
Oui, parce que si vous voulez, traditionnellement, en philosophie, on nous propose deux solutions à l'objet de l'amour. L'objet de l'amour est soit présenté comme un objet nécessairement absent, c'est-à-dire que on ne désire que ce qu'on n'a pas. Et donc, ne désirant que ce qu'on n'a pas, une fois qu'on a ce que l'on désire, on ne le désire plus, et donc ne l'aime plus. Vous comprenez ? Et donc, on arrive à ce paradoxe que on ne peut pas, l'amour ne peut pas perdurer, forcément. Et donc, d'autres philosophes se sont dit, mais quand même, on voit bien qu'il y a des amours durs. Et donc, il doit y avoir une autre solution, une autre équation à ce problème. Ils se sont dit alors, l'amour est une jouissance en puissance, une puissance de jouir, associée à une idée extérieure. Et donc, cette même problématique, on la retrouve chez les savants musulmans et les soufis. Et donc, si vous voulez, l'idée, c'est que le problème de cette deuxième approche est que finalement, si la puissance de jouir est en nous, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas que jouissance, finalement ? Donc, on est face à un double paradoxe. Et en réalité, ce double paradoxe ne se résout qu'en ayant une vision dynamique de... C'est-à-dire que, si vous voulez, tel que le présente Rumi, l'objet de l'amour n'est pas uniquement extérieur, il n'est pas uniquement intérieur, il est dans la relation aux deux. Il est, si vous voulez, dans l'échange, dans l'échange qui se passe entre le moi et l'extérieur. Et donc, ce mouvement, il a deux sens, évidemment. Et quand on l'observe de manière statique, on imagine que ce mouvement, il part d'un point A vers un point B et il s'épuise vers ce point B. Mais en réalité, ce mouvement-là, il est comme, un peu comme une spirale, si vous voulez. Il a un aller et un retour. Et dans cette perspective de l'amour, du coup, l'amour n'est plus voué à s'éteindre. Au contraire, il est voué à perdurer dans la mesure où l'harmonie est maintenue. Parce que pour que ce mouvement de l'un vers l'autre puisse perdurer, il faut que l'harmonie perdure. Et pour qu'une harmonie perdure, il faut deux acteurs de l'harmonie. Évidemment, c'est un peu lapidaire, mon explication. Les mots me manquent. Mais si vous voulez, la conclusion de tout ça, c'est que l'objet de l'amour, c'est nous. C'est pas moi, c'est pas lui ou elle, c'est nous, l'objet de l'amour. Voyez ? Et ça, et ce nous n'est pas figé, ce nous est dynamique. Il est dans la relation. Si la relation est harmonieuse, il y a amour. Si la relation est disharmonieuse, il y a le contraire. Et maintenir l'amour, et c'est pour ça que des couples, et quoi qu'on en dise, parce qu'à notre époque, justement, beaucoup de philosophies nous font croire que l'amour est éphémère et voué à s'éteindre. Et alors, évidemment, c'est tout le contraire de la vision mystique de l'amour. C'est tout le contraire de la vision mystique de l'amour. Mais par ces éclairages de texte, je pense avoir montré comment, par quelle dynamique, par quel mécanisme ça fonctionne, si vous voulez. Donc, c'est ça qui me semble très important et que l'on doit vraiment au maître soufi. Alors, évidemment, on trouve peut-être ça ailleurs, mais si vous voulez, cette explication que j'ai pu trouver dans les textes est très éclairante. Voilà. Bon.
Oui, et d'ailleurs, elle est basée, et je voudrais qu'on revienne à l'origine, elle est basée sur un verset coranique que vous citez, et qui est précisément un verset sur l'amour et un verset de la réciprocité, puisqu'il s'agit, dans ce verset, il est dit que Dieu amènera des créatures qu'il aimera et qui l'aimeront. Donc immédiatement, l'amour, dans le texte coranique même, est inscrit dans cette relation de réciprocité. Exactement. Et il me semble qu'il y a quelque chose de très spécifiquement, de très propre à cette tradition-là. Mm-hmm. Que ce que vous énoncez là, la question du dynamisme, de la réciprocité et de la présence divine dans tout élan amoureux.
Tout à fait. Bah, écoutez, évidemment, les mystiques musulmans ont toujours basé leur méditation sur le Coran et aussi sur les paroles du prophète. Donc, il est assez naturel qu'on retrouve dans les textes coraniques l'origine de ces choses. Voilà. Et c'est vrai que l'héritage a été porté par les soufis cet héritage-là a été porté par les soufis de manière vraiment très prépondérante. Mais c'est vrai aussi que, justement, je voulais qu'on appuie sur ce point, c'est que non seulement l'idée de l'amour, la vision de l'amour est une idée ancienne, hein, elle n'est pas le fait d'Ibn Arabi ou, je veux dire, dans l'histoire de la mystique musulmane et de l'islam en général, elle est très ancienne, puisque nous avons des textes donc, de Daylami qui datent de 400 de l'Égypte, donc
10e siècle,
et qui n'était pas le premier, mais qui est le plus ancien qui soit conservé. Et par ailleurs, nous savons aussi que cette idée était répandue. Alors, si vous voulez, il y a l'idée de la création. Il y a l'idée de la création par amour. Cette idée de la création par amour, on la retrouve aussi chez les savants comme Ibn Qayyim al-Jawziyya, qui a écrit un livre qui s'appelle « Rawdat al-Muhibbin ». Or, c'est très important parce que...
Traduisez pour nos auditeurs.
Alors, oui. Donc, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il faut savoir que c'est le disciple de Ibn Taymiyyah. Donc, c'est tout à fait une autre école que le soufisme. Mais, donc, Ibn Qayyim écrit un livre qui s'appelle « Rawdat al-Muhibbin », « Le jardin des soupirants ou des amants ». Et ce livre dit aussi expressément que la création est un acte d'amour. Vous voyez ? Donc c'est très important parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette idée non seulement n'est pas nouvelle, mais aussi elle n'est pas exclusivement soufie. Et c'est très important pour, notamment dans notre contexte, de rappeler ça, que cette vision de l'amour est commune dans l'islam. Maintenant, le fait est que ce sont les soufis qui ont porté cette idée le plus haut et surtout le plus profondément. Parce que dire que la création est un acte d'amour est une chose, mais en tirer les conclusions en est une autre. Voyez. Or, en tirer les conclusions passe par un tas de questionnements, hein, une foultitude de questionnements sur la divinité, sur la raison d'être de l'existence, sur la question du bien et du mal, etc. etc.
Mais là, il n'y a rien de très original à la tradition musulmane, parce que déjà, la Bible, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont truffés déjà de références à l'amour que Dieu porte vers les hommes et cette réciprocité, ce retour d'amour. Le Cantique des Cantiques en est un exemple absolument exceptionnel. Donc, on pourrait dire que la tradition soufie musulmane s'appuie aussi sur une tradition juive et chrétienne qui la précède dans cette dimension de la relation aimante et amoureuse.
Mais de deux choses l'une, vous savez, soit Dieu existe et l'héritage vient de lui, soit Dieu n'existe pas et l'héritage vient des hommes. Dans les deux cas, la continuité est évidente. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la foi musulmane ne peut que reprendre les thèmes de la foi chrétienne, de la foi juive et de la foi universelle. Si on est croyant, c'est une évidence. Si on est incroyant, on ne peut avoir qu'une démarche universitaire, qui est de faire la filiation des pensées, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de montrer dans cet héritage qu'est-ce qu'on a trouvé de plus beau et d'éclairer les musulmans eux-mêmes dans leur foi. Parce que pour vous, qui êtes chrétien, si je ne m'abuse, évidemment, la question de l'amour
est une évidence.
Est peut-être une évidence, voilà. Dans le contexte actuel, dans notre contexte actuel, la question de l'amour peut paraître, dans le sein de l'islam, quelque chose de peut-être pas d'absent, parce que on a cité des versets coraniques qui parlent d'amour, mais en tout cas, pas central. Hein. Et or, la question de l'amour est centrale. Razali, qui est un des très très grands, qu'on appelait l'argument ou la référence de la religion ou la preuve de la religion, est un de ceux qui a montré que l'amour est le plus haut degré, en tout cas qui a affirmé, qui a soutenu que l'amour est le plus haut degré de réalisation spirituelle. Vous voyez ? Donc ce n'est pas une idée accessoire, mais c'est une idée centrale. Et donc le fait que je cite la question de la création par amour est très, très important dans ce sens-là, que voilà, il faut remettre. Parce que vous savez, le contraire de la spiritualité, c'est de mettre l'accent sur le secondaire. C'est inverser la pyramide, finalement.
Oui, sur le juridique, sur le formel, sur le légalisme.
Ouais. Mettre l'accent sur ce qui est ce qui n'est pas important et oublier l'essentiel. Or voilà, ce qu'on a oublié, comme je le disais, on s'inscrit dans une continuité. Donc l'amour, le message d'amour perdure dans l'islam. Et alors en France, évidemment, on le voit peut-être peu. Hein, dans le monde musulman, on le voit mieux déjà. Mais je veux dire, dans le monde musulman, parmi le peuple, hein, parmi les gens de pratique.
Dans l'intimité des demeures.
Dans l'intimité, voilà. Mais voilà, donc on a un besoin.
C'est sûr qu'on préférerait que des jeunes convertis français à l'islam, plutôt que de partir faire le djihad en Syrie, s'impliquent dans le djihad intérieur,
exactement,
qui est la transformation
exactement.
De soi, pour grandir dans l'amour universel.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui d'Idriss Devos. Nous parlons donc de la voix de l'amour soufi à l'occasion de la sortie de votre livre L'amour universel, un cheminement soufi aux éditions Albourac.
Oui, et précisons que ceux qui partent vers le djihad ont été complètement ils ont eu un lavage de cerveau par des prêcheurs qui sont quand même largement payés, soutenus, formés. Disons pour faire court, par un certain nombre de gens dans les pays du Golfe, et que dans ces mêmes pays du Golfe, les ouvrages d'Ibn Arabi sont interdits.
Ouais, c'est vrai.
Donc il y a quand même un hiatus fondamental. Quel est le véritable islam ?
Bien sûr. Alors de toute façon, le salafisme, on le sait, hein, parce que tous ces courants de pensée qu'on voit actuellement sont plus ou moins hérités du salafisme. Alors c'est des raccourcis, évidemment, on n'a pas le temps de... Mais c'est un conflit qui est très ancien dans l'islam. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des hommes qui avaient une vision, c'est comme dans le christianisme avec Maître Eckhart, etc. Des gens qui avaient des visions. C'est tellement profond, si vous voulez, on va tellement en profondeur dans les choses que la plupart des gens perdent pied. Or, les juristes sont des êtres humains qui ont leurs limites. Et tout simplement ne peuvent pas suivre ce genre de personnage. Ibn Arabi, quand on rentre dans ses textes, on rentre dans des océans, je veux dire. Mais, ou Jérôme, pareil, je veux dire.
Mais pour vous, c'est à quel moment que, je dirais, l'islam plus légaliste, etc., l'a emporté majoritairement? À quelle période historique ça s'est plutôt fait par rapport à cet islam du cœur, cet islam de l'amour, très spirituel?
À aucune époque, puisque, à l'époque récente, ce qu'on voit aujourd'hui, le salafisme, tout ça, c'est très très récent. Puis ça date de l'époque de l'Arabie Saoudite, hein, donc de Ibn Saoud et de Mohammed Abdel Wahhab, puisque le wahhabisme et l'État saoudien se sont formés en même temps, hein, main dans la main. Donc, cette vision-là, elle est toute nouvelle. Et elle est combattue depuis le début par les savants musulmans du monde entier. Alors, moi, j'ai traduit des livres de Cheikh El-Bourti, qui est mort aussi dans un attentat dans une mosquée il n'y a pas si longtemps. Il s'est fait... Voilà. Et donc, c'est un personnage qui combattait ça. Et il y en a des centaines et des centaines. On n'imagine même pas. Cette vision-là, elle est très minoritaire, mais... À force de pétrodollars, elle s'impose dans nos cités, dans la tête des jeunes, etc. Mais elle n'a jamais été majoritaire. C'est ça, c'est le regard, si vous voulez, qu'on a ici en étant en France, en économie moyenne française. Mais si vous rentrez dans le monde musulman, vous verrez que, à part justement l'Arabie Saoudite, qui a formé toute une génération de gens à cette doctrine, et donc quelques États voisins, à part ça, dans le monde musulman, la vision salafiste est complètement minoritaire. Et la voix de Razali, par exemple, reste la référence. Vous voyez ? Donc Razali, qui pose l'amour comme l'essentiel de l'essentiel, et le cheminement soufi comme la priorité des priorités. Vous voyez ? Donc ça, si les gens sont sunnites, ou même d'ailleurs dans le chiisme, hein, la spiritualité est aussi très présente. Mais je veux dire, c'est que la majorité du monde musulman sunnite, si elle est en cohérence avec elle-même, les gens comme Razali sont des références. Les gens comme El Bouti, qui donc est mort, assassiné il n'y a pas longtemps, et sont des référents, sont les références du sunnisme. Or, ces références du sunnisme, qui sont des savants, reconnaissent le soufisme. Alors, évidemment, en le mettant dans un certain cadre, parce que, si vous voulez, le soufisme a ses excès, a ses débordements, et comme je disais tout à l'heure par rapport à Ibn Arabi, a ses profondeurs auxquelles n'ont pas accès tout le monde. Donc, là, le sunnisme a toujours fait une place au soufisme. Toujours. Alors, évidemment, avec certains conflits, certains, etc. Mais, depuis le début, certains soufis, grands soufis comme Abdelkader Jilani, Al-Bistami, etc., étaient reconnus comme des références. Alors, c'était aussi des gens qui donc, avaient une vision, avaient un témoignage sobre du soufisme. C'est pour ça, évidemment, qu'ils ont été plus facilement reconnus. Maintenant, donc le soufisme en tant que cheminement spirituel et en tant que partie inhérente, centrale et essentielle de l'islam a toujours été là. Vous voyez ? Donc ça, c'est important de le dire à nos jeunes.
Et aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent rencontrer ces jeunes, des soufis qui peuvent les éduquer, les aider, les éclairer ? Est-ce qu'il y a des maîtres soufis en France qui transmettent, ou est-ce qu'il y a majoritairement des imams plutôt ignorants du soufisme qui transmettent cet islam rigoriste qu'on voit?
Alors, l'islam de France, au départ, il était porté par des imams qui venaient du Maghreb. Ils étaient formés à l'école malikite, donc l'école juridique malikite, qui est une des quatre écoles du sunnisme. Donc ces gens-là, si vous voulez, portaient l'islam sunnite traditionnel. Et vous remarquerez qu'à cette époque-là, on n'avait pas de problème avec l'islam de France. Les gens faisaient leurs prières, leur ramadan. Bon, peut-être quelques petits soucis à droite, à gauche. On n'avait pas ces soucis. Maintenant, c'est la propagande, si vous voulez, la propagande saoudienne qui a fait que maintenant, on a des imams radicaux qui sont formés au wahhabisme et qui envahissent littéralement les mosquées. Oui. Mais à la base, les imams de France étaient tous tout simplement des gens qui... Alors évidemment, ils étaient aussi très ignorants du monde français. Enfin, ils étaient très en décalage, si vous voulez, par rapport à la société. Mais ils avaient une vision de l'islam plus traditionnelle. Donc le soufisme était là en toile de fond. Parce que je ne dirais pas que chaque imam était soufi et pratiquait le soufisme. Mais je dirais que chaque imam portait un islam qui était ouvert sur le soufisme. Et donc... cette porte-là restait ouverte. Maintenant, dans les mosquées infiltrées par le wahhabisme, si vous voulez, la porte est fermée. La porte de la spiritualité est fermée. Fermée.
Bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a ailleurs ?
Bien sûr.
Si on veut rencontrer des confréries ou des maîtres soufis, aujourd'hui, on peut en France...
Oui, mais alors, évidemment, tout dépend de l'exigence que vous allez placer dans la notion de maître, si vous voulez, mais des gens qui portent le soufisme, représentent du soufisme. Ouais. Il y a toutes les confréries sont représentées. La Naqshbandiya, la Dalqawiya, la Qadiriya, la Bouchichiya, etc. Donc, à peu près tous les après chacun son le soin de faire son cheminement, mais voilà, donc oui, bien sûr, la porte reste ouverte, la porte de Dieu reste ouverte.
Oui, mais pourquoi est-ce que on les entend pas plus, je dirais, même d'ailleurs pas seulement en France, je dis dans le monde entier. C'est vrai que quand on assiste aux scènes auxquelles on a, qu'on a vues à la télévision, ces choses abominables qui s'est passé en Irak, etc. On se dit, mais pourquoi, justement, ces gens qui portent ce message du soufisme, qui est quand même un message d'amour universel, pourquoi on ne les entend pas? Pourquoi ils disent pas, c'est pas ça l'islam? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de monopoliser un discours sur l'islam, qui plus est celui-là. Je dirais, d'une certaine façon, pourquoi ils ne viennent pas dire, mais les meilleurs ennemis de l'islam, ce sont ces gens qui crucifient des chrétiens au nom de l'islam.
Oui, mais bien sûr, mais si, hein, les voix s'élèvent, hein, il faut parcourir le monde arabe. Le problème, c'est que chez nous, on a une vision très déformée. Je vous le dis encore, on est loin de tout ça, on est très loin. En France, les gens ne connaissent pas l'islam. Ils ne connaissent que des images de l'islam. Enfin, de l'islam, ou en tout cas de ces horreurs que vous décrivez. Donc, évidemment, le monde musulman reste très vivant, et notamment, justement, en Syrie. Moi, je me rappelle que je suis parti deux fois en Syrie, et je me rappelle d'une population très, très érudite de sa religion. Je veux dire, des gens qui n'ont rien à voir avec toute cette image violente que l'on a. Les savants sont présents, travaillent, des savants soufis sillonnent la terre, essayent de porter un peu le message. Mais voilà, c'est...
On ne les entend pas beaucoup, je suis d'accord avec Lélie. Oui, c'est vrai qu'il y aurait eu des occasions formidables de prise de parole, là. Et peut-être qu'ils n'aiment pas les médias ou qu'ils n'ont pas envie d'avoir une démarche un peu...
Je ne sais pas, il faudrait...
Publique.
Ouais. Peut-être que les médias ne les invitent pas assez. Il faudrait les inviter sur les plateaux.
Ben
sur
nous,
les...
c'est ce qu'on fait. On va bientôt aller rencontrer le cheikh Bentounes que vous devez connaître.
Voilà, bien sûr. Oui. Mais voilà, c'est des gens qui portent aussi des messages d'amour, ça c'est évident.
Pour revenir à la question de l'amour universel, vous avez dit tout à l'heure, donc il y a cette dynamique. Et vous avez utilisé un mot qui m'a frappé, j'aurais envie que vous développiez ça. Vous avez dit, pour maintenir l'amour, pour qu'il dure, il faut maintenir l'harmonie.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous entendez?
Alors, si vous voulez, c'est l'idée que finalement... L'amour découle du beau. C'est une idée évidemment ancienne que la philosophie moderne encore aussi remet en question. Mais l'idée, si vous voulez, c'est que ce que l'on aime est ce qui est beau. Ce qui est beau dans la forme, c'est la beauté des choses. Ce qui est beau dans l'intellect, c'est la vérité. Ce qui est beau, vous voyez. Donc toutes ces choses... font la beauté. Et la beauté, de la beauté naît l'amour. L'harmonie, c'est la beauté. L'harmonie, c'est la beauté. C'est, je dirais même, moi, c'est le mot que j'emploie parce que c'est celui qui est le plus large pour parler des diverses formes de beauté. Parce que l'harmonie des idées fait la vérité, l'harmonie des couleurs fait le tableau, ou l'harmonie des notes fait la musique, etc. Donc j'aime bien parler d'harmonie. C'est aussi certainement un de mes héritages, puisque j'ai aussi beaucoup pratiqué l'aïkido, qui est un art martial qui ici met beaucoup l'accent sur l'harmonie. D'ailleurs, je salue mon maître Michel Soulenc, hein, qui m'a beaucoup enseigné. Si vous voulez, l'harmonie, c'est ce qui permet l'amour. Dans un couple, tant qu'il y a harmonie, tant qu'il y a bienveillance, tant qu'il y a échange avec tout ce que ça peut impliquer, il y a amour. Dans une amitié, tant qu'il y a partage, tant qu'il y a pareil, bienveillance, etc., donc il y a amour. Vous voyez, donc on comprend bien que c'est un mouvement dans les deux sens et qui n'est pas justement un flot qui partirait d'un point et qui s'éteindrait ou qui se déverserait dans un autre.
Oui, il faut que chacun nourrisse la beauté de la relation, finalement.
Mais voilà, tout à fait. Et donc, parce que qu'est-ce qu'on aime? La vertu. On aime la vertu. D'ailleurs, c'est un enseignement aussi que je tiens à mentionner, qui vient de Razali. Si vous voulez, c'est cette idée pour aimer... Il faut, dans ce rapport à la vertu, si vous voulez, l'idée, c'est que il faut cultiver cette vertu et se l'approprier. Parce que chaque fois que l'on s'approprie une vertu, finalement, elle devient une cause d'amour. Or, si on admet une personne toute de vertu, elle devrait être à chaque instant, si vous voulez, dans un rapport harmonieux à l'autre, et donc à chaque instant créer une raison d'amour. Et donc, si vous voulez, cette idée-là, chez Razali que j'ai trouvé ça, si vous voulez, c'est l'idée qu'il faut, comment dire, continuer toujours à cultiver cette harmonie intérieure.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça se met, cette idée, en fait, elle entre dans une idée plus globale qui est très, à nouveau, très développée par les soufis, en particulier par les poètes, qui est le dialogue ou la dialectique, je dirais, entre la transcendance et l'immanence. C'est-à-dire qu'en fait, la transcendance nourrit l'immanence et l'immanence mène à la transcendance. Et les deux sont totalement indissociables, contrairement à ce qu'on pense d'habitude, c'est-à-dire qu'on pense que le Dieu de l'islam est pure transcendance. En fait, ce que disent les mystiques en particulier, c'est que c'est dans l'immanence que cette transcendance peut être évidemment perçue, ou en tout cas qu'on peut en avoir un avant-goût. Alors, vous donnez dans votre livre, à la fin de votre livre, il y avait une sorte de petite anthologie de l'amour, de quelques poèmes que vous avez traduits selon la méthode qui est la vôtre, c'est-à-dire en vers rimés, en alexandrin rimé. Donc, je voudrais lire un extrait de Abdelkarim Al-Jili, parce que cet extrait, justement, montre cette dialectique entre transcendance et immanence, et qui reprend un peu ce que vous avez dit. Mais aussi peut-être parce que Jili est né en 1366 à Bagdad, et qu'on se dit que les temps ont bien changé. C'est un cœur en lequel point l'aube de l'amour, où les astres fielleux n'ont point droit de séjour. Seul encore prisonnier de l'ardente vapeur, quand la séparation a affecté les cœurs au comptoir de l'union, lui, établi, demeure. De leur divers nectar, l'essence et sa liqueur, un vin d'éternité dessous ses côtes court. Tout parfum capiteux, en quelque lieu qu'il fleure, me porte en son effluve un bagage d'ardeur. Contemplant les atours d'une sublime femme, sur un autre que toi, mes yeux point ne se pâment. Si une lune blanche, voilée ou non, se penche sur un frêle roseau dont le nœud se déhanche, et si sur une joue, un grain de beauté trace un charme éblouissant, ce sont là de tes grâces. Tous les êtres créés sont des flocons de neige, et toi tu en es l'eau, ou la source, dirais-je. La neige à l'eau est-elle en essence étrangère? Si par disposition en la loi elle diffère, cette disposition le dégèle, annihile, et à celle de l'eau, dès après, l'assimile. Toute laideur, au vrai, si tu la considères dans cette relation à sa splendeur plénière, sans notion de beauté aux consciences suggèrent.
Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel, en compagnie aujourd'hui d'Idriss Devos. Nous parlons donc de la voix de l'amour soufi à l'occasion de la sortie de votre livre L'amour universel, un cheminement soufi aux éditions Albourac. Lélie Anvar.
Oui, alors ce poème est un peu, tel que vous le traduisez, il devient aussi un peu plus mystérieux, mais quand on le lit avec attention, on voit bien que les mystiques musulmans, je dis bien les mystiques et pas les soufis seulement, ont vu dans la manifestation des formes du monde, qu'elle soit belle ou d'ailleurs qu'elle soit laide, comme on le voit dans ce texte, finalement, un signe qui les fait remonter à l'amour divin. Parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez beaucoup parlé de relations d'amour, vous l'expliquez très bien dans le premier chapitre, toutes les amours terrestres, pour un musulman, se résorbent dans l'immense amour qui est l'amour divin. Même les relations les plus profanes, en réalité, sont vues par le soufisme comme étant des propédeutiques à l'entrée dans cet amour divin.
Tout à fait. Et alors, c'est d'ailleurs un vieux débat, hein, cette question, puisque c'est une question qui renvoie à une question théologique, hein, celle de justement de l'immanence et de la transcendance, et qui, je dirais même, encore une fois, verser de l'encre, mais aussi du sang, hein, mais pas que dans l'islam d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, il y a dans le soufisme cette synthèse entre l'immanence et la transcendance, mais qui d'ailleurs est très présente dans le Coran, parce que si vous voulez, dans le Coran, on va vous dire un Dieu sur son trône s'est établi, donc la transcendance absolue. Et puis, un verset plus loin, on vous dira. Où que vous vous tourniez, là est le visage de Dieu. On vous dit, il est l'apparent et le caché, dans le même verset. Hein, on vous dit, il est plus près de lui que sa veine jugulaire, et on vous dit, après, les regards ne l'atteignent pas, etc., etc. Donc, si vous voulez, cette contradiction est acceptée et validée et reconnue par le Coran. C'est-à-dire que le Coran intègre ces deux visions sans en donner, évidemment, la solution intellectuelle. Parce qu'en réalité, si vous voulez, l'intellect ne peut agir que tant qu'il y a dualité. Parce que l'intellect, qu'est-ce qu'il fait? Il lie des choses, il lie des notions entre elles. Or, dans l'unité, il n'y a plus de dualité, par définition. Donc, si vous voulez, il n'y a que dans l'unité que ces questions-là se peuvent être résolues. C'est pourquoi, finalement, la théologie n'en viendra jamais à bout. Et c'est pourquoi des gens comme Rumi ou comme Ibn Arabi assument ce paradoxe, et finalement disent cela, mais toujours de manière allusive, pour dire que cette question-là n'a de finalité que dans l'union. Or, l'union, justement, il faut la comprendre à la façon soufie. Alors, évidemment, c'est encore un autre chapitre qu'il faudrait ouvrir, mais l'idée, si vous voulez, c'est que cette question-là n'a de réponse que dans l'unité. Or, l'unité, c'est évidemment là où il n'y a plus de dualité. Et donc, où il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de place pour l'intellect qui voudrait résoudre cette équation.
Je voudrais poser la question de manière un peu différemment. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, au fond, que dans cette compréhension de l'amour universel, toute relation de communion entre deux êtres qui se fondent sur l'harmonie, et qui crée cette beauté, est-ce que ce n'est pas de l'amour divin? Est-ce que cet amour universel, ce n'est pas l'amour divin qui remplit l'univers, qui fait que l'univers a une beauté, a une harmonie, et que toute communion entre les êtres, toute relation d'amour entre des êtres, lorsqu'il est dans cette harmonie, c'est de l'amour divin partagé?
Tout à fait. Alors, justement, Deilami, dont j'ai parlé tout à l'heure, précise et explique expressément que, si vous voulez, toute beauté est en fait déclinée de la beauté divine, et plus elle est éloignée, toute chose, plus elle est éloignée évidemment de cette source de beauté, plus sa part de beauté est infime et plus elle est imperceptible. Seul, et dit précisément, seuls les gnostiques peuvent voir cette beauté. Vous voyez, donc ça c'est extraordinaire, c'est-à-dire que dans la proximité, dans le paradis, la beauté est partout, tout n'est que grâce et volupté, mais dans les yeux, dans notre contexte, par exemple, de guerre, etc., où trouver la beauté, etc. Et Deilami nous dit, seuls les gnostiques, dans ces endroits les plus enténébrés, peuvent reconnaître la beauté, la part de beauté divine. Hein. dans les choses. Alors évidemment, c'est aussi une idée qu'on retrouve chez le Christ qui passe devant la charogne et qui dit, voilà, c'est regarder ses dents comme elles sont blanches. C'est évidemment...
Ce qui est une histoire que racontent les musulmans sur le Christ. À ma connaissance, ce n'est pas dans les évangiles.
Ah, peut-être. Alors écoutez, c'est dommage.
C'est une tradition soufie qui rapporte... je crois qu'on en avait déjà parlé, Frédéric, dans une autre émission.
Mais effectivement, je ne connaissais pas cette anecdote.
L'anecdote, c'est qu'en fait, le Christ... Allez-y, racontez-la.
Oui, c'est l'idée que le Christ passait devant une charogne avec ses apôtres. Et donc, alors les gens s'indignent à regarder comme cette horreur, comme c'est puant, etc. Et puis le Christ aurait dit, oui, mais regardez comme ses dents sont blanches. Vous voyez, le gnostique qui reconnaît la beauté dans les choses, alors qu'elle soit de lui ou d'un autre, peu importe finalement. Mais l'idée est extraordinaire. Vous voyez, c'est que finalement, c'est ce qui reste de l'harmonie, ce qui reste de la beauté, c'est le reflet que Dieu a mis dans les choses. Hein, c'est ce reste de reflet éloigné qui reste de la divinité dans les choses.
D'où le fait que finalement, et je ne voudrais pas terminer cette émission avant de lire ce très célèbre poème d'Ibn Arabi, très court mais très célèbre, d'où l'idée au fond que la haine est le seul blasphème, puisqu'il faut être ouvert à l'infinie beauté de Dieu qui se manifeste même dans ceux que nous n'aimons peut-être pas en apparence, même dans ceux qui peuvent sembler laids. Eh bien, cet accueil radical et absolu qui doit être l'horizon du soufi suggère vraiment l'idée que le seul véritable et plus radical blasphème, c'est la haine. Voilà qui est ma foi étrange, exceptionnelle. Sous ce voile, un visage effacé de gazelle, qui de ses doigts jujube à nos âmes suggère ce que son vœu prescrit et d'un jeu de paupières. Mon cœur est désormais à toute forme ouverte. Il est pour l'antilope un pré d'herbe couvert, pour le prêtre dévot le sein d'un monastère, pour l'idolâtre un temple aux païennes images. Puis il est la Kaaba but des pèlerinages, de la Torah le livre ou du Coran les pages. En quelque direction que ces montures courent, la foi que je professe est celle de l'amour.
Bon, c'est sur cette lecture que nous allons devoir clore cette émission. On a compris en vous écoutant que l'amour ne dure pas que 3 ans, mais il peut durer toujours s'il est dans la création d'une relation d'harmonie, quelle que soit la nature de cette relation, d'amitié entre un homme et une femme, et dans la relation qu'on a avec le monde et avec Dieu, bien entendu. Donc l'amour universel soufi, c'est le titre de votre livre, L'amour universel, un cheminement soufi, aux éditions Albourac. Merci beaucoup d'être venu nous parler de votre cheminement.
Je vous en prie, merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar. La semaine prochaine, nous parlerons de la sagesse du Petit Prince avec Pierre Lassus. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.